Sud Radio, le débat de la semaine.
La Super League a fait jaser toute la semaine. Une Super League annoncée morte et enterrée mercredi, après que les 6 clubs anglais, les 2 clubs milanais et l'Atlético Madrid se soient retirés. Pourtant, si on en croit la presse étrangère de vendredi et samedi, celle-ci n'est peut-être pas si morte que ça. En effet, selon le New York Times de vendredi, les 3 derniers clubs encore dans le projet, Real, Barça et Juve, vont demander des pénalités de retrait aux 9 autres clubs, des pénalités qui atteindraient 150 millions d'euros par club, selon le magazine allemand Der Spiegel, qui s'est procuré le contrat. Les 1,350 milliards d'euros finiraient dans les caisses du Real, du Barça et de la Juve, ce qui leur permettrait de rembourser environ la moitié de leur dette. Enfin, Florentino Pérez, le président du Real, a déclaré dans AS vendredi, je cite « Ce projet ou un autre similaire se fera et j'espère rapidement, il faut l'enclencher le plus rapidement possible », d'où le débat du dimanche sur Sud Radio. Pensez-vous que la Super League va revenir sur une autre forme? Et pour le moment, vous êtes 59,5% à dire oui. Avec nous pour en débattre, une des voix de Sud Radio, Vincent Chondel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et Jonas Haddad, avocat de joueurs professionnels au cabinet Hashtag Avocat, vice-président de la Fondation Concorde, qui va très prochainement publier un rapport sur l'économie du football. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vincent Chondel, est-ce que vous croyez pas, quand on lit quand même le New York Times, Der Spiegel et AS, qu'on a enterré la Super League un petit peu vite?
Mais elle n'est pas enterrée sur le principe. Après, sur la forme, elle prendra peut-être une autre forme, mais... En fait, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bras de fer et puis l'UEFA a retrouvé vite des options où elle y travaille. Mais en fait, le fond du problème n'est pas disparu, évidemment. Tout reste là devant nous. C'est-à-dire que les gros clubs ont inventé une formule qui est gagner plus pour dépenser plus. Et aujourd'hui, ils sont addicts à toujours plus de chiffres d'affaires. Et quand une formule comme la Super League leur propose 350 millions d'euros de garantie, alors que le PSG l'année dernière, on avait fait le calcul avec l'Observatoire du Sport Business, on avait estimé le revenu de la Ligue des Champions en étant finaliste à 135 millions d'euros, ça veut dire 3 fois plus avec cette Super League. On peut comprendre que des clubs, notamment les Espagnols, endettés au-delà de la raison, 1 milliard pour le FC Barcelone, soient addicts à ce type de projet.
Jonas Haddad, on l'a enterré un peu vite, la Super League?
Non, je pense qu'on l'a enterré au bon moment. En réalité, c'était un bras de fer auquel se sont livrés les grands clubs, pensant que leur entité privée, parce qu'il y a quand même du droit là-dedans, hein, leur entité privée serait plus forte que l'entité qui est une association de l'UEFA. Je rappelle juste, les gens l'ont peut-être oublié, le président de l'UEFA est un juriste.
Čeferin.
Voilà, et donc en fait, il a très bien analysé les enjeux juridiques par rapport à ça, même s'il y a des enjeux financiers, et évidemment, on voit bien que les clubs qui ne se sont pas retirés de la Super League vont essayer de récupérer les sous, mais en réalité, pour pouvoir payer également l'amende qui est donnée par l'UEFA. Donc je rappelle pour nos auditeurs que depuis janvier, lorsque vous êtes un club qui est affilié à l'UEFA et que vous participez à une compétition qui est autonome et privée et qui n'est pas rattachée à l'UEFA, automatiquement vous êtes exclu de l'UEFA, mais également vous devez payer des amendes. De même les joueurs, puisqu'on parlait tout à l'heure des joueurs professionnels, tout joueur professionnel...
Et vous êtes avocat de joueurs professionnels.
Voilà, donc tout joueur professionnel qui participerait à ce genre de compétition, eh bien en réalité serait sanctionné et ne pourrait pas jouer des compétitions type Euro. Donc vous imaginez par exemple Griezmann avec le Barça, oui, qui ne jouerait pas.
Ronaldo avec la Juventus.
Ronaldo qui ne jouerait pas, voilà, avec le Portugal. Enfin, on peut démultiplier les exemples. Donc en fait, il y a cette situation et puis il y a le contexte. Dans le contexte Covid, il faut qu'on le dise à nos auditeurs, en réalité, il y a certains clubs qui aujourd'hui essayent de renégocier à la baisse la rémunération des joueurs. Parce qu'ils ont du mal, parce qu'ils sont endettés, parce que les 3 piliers qui sont dans le foot aujourd'hui, c'est-à-dire les entrées dans les stades, les droits télé avec le fiasco Mediapro, oui, d'un autre côté, les transferts de joueurs, sur ces 3 piliers, ils sont en difficulté. Donc, à un moment, leur masse salariale, c'est-à-dire les salaires, doivent baisser des joueurs. Donc, les joueurs se sont vraiment planqués en disant, bah, écoutez, nous, on ne va quand même pas rentrer dans ce truc-là, parce que si, en plus, on ne peut même plus jouer les compétitions internationales, on ne peut pas aller sur la Super League. Ce qui fait qu'en réalité, les clubs ont mal joué, parce qu'ils ont joué sans le soutien des joueurs, et sans le soutien des supporters. Donc, pour moi, c'est mort.
Vincent Chondel, justement, on va parler gros sous, parce qu'on aime bien en parler dans l'Observatoire du Sport Business. Les 150 millions d'euros, c'est le Der Spiegel qui le dit, c'est pas moi, hein, qui devrait être payé par les 9 clubs qui se sont retirés aux 3 autres. Est-ce que pour vous, c'est faisable? Alors, quand on voit déjà leur dette, rajouter 150 millions d'euros de pénalité, il va falloir qu'ils parlent avec leur banquier.
Ça dépend. Si on parle des Anglais, les 150 millions d'euros, oui, ils seront en capacité de le faire.
Vu les droits télé.
Après, oui, bien sûr. Mais après, si on parle aussi des sanctions évoquées là à l'instant, les sanctions n'existeront que quand les clubs auront réalisé la compétition. On ne peut pas sanctionner par anticipation. On ne peut pas sanctionner des joueurs salariés de clubs aujourd'hui qui iraient, qui se déclareraient aller vers cette compétition, les sanctionner dès cet été, par exemple, pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde suivante. C'est pas concevable. Donc, les sanctions, elles sont réelles et ils les annoncent, mais elles ne sont pas opérantes tout de suite. Et après, il faudra voir si juridiquement elles tiennent. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on a bien compris qu'en Espagne, ils étaient addict à ce sujet-là et que c'était quasiment leur seule porte de sortie. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Real et le Barça n'ont pas de propriétaires avec une surface financière importante. Ils ne peuvent pas demander à leurs propriétaires d'abonder en compte courant. Donc, ils ont des socios, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi. Et donc, à ce niveau-là, peut-être vous, Philippe, mais moi, j'ai pas quelques millions en poche.
Moi non plus.
Pour soutenir mon club de cœur. Donc,
surtout quand voilà, les supporters ne soutiennent pas. C'est-à-dire que surtout, en plus, quand les supporters ne soutiennent
pas.
En
plus. Et je pense que la fronde des joueurs évoquée, elle est plus liée à la réaction forte et subite des supporters que la négociation de salaire en soi. Parce que de toute façon, ça fait quasiment un an que les clubs négocient avec les joueurs pour baisser les salaires parce qu'ils sont pris à la gorge à cause de la Covid. Effectivement, pas des huis clos, donc pas de recettes billetterie, plus l'absence de mercato. Nous, on le subit fortement en France parce que c'était un de nos piliers économiques.
Oui.
Font que les clubs sont pris à la gorge.
Là, on va parler à l'avocat, Maître Haddad. Les 150 millions d'euros, ils vont être obligés de les payer, je ne sais pas, moi, Manchester City, aux trois autres, Tottenham ou Milan AC.
Alors, c'est un sujet très intéressant. Vous savez, imaginez que vous...
C'est Der Spiegel qui a lancé le truc, ce week-end.
Imaginez, vous êtes dans la rue, vous essayez de voler quelqu'un, d'accord, de lui prendre son portable. Une tentative de vol, c'est puni de la même façon que le vol.
D'accord.
Donc, la question, c'est de savoir si le règlement de l'UEFA considère que la tentative de détourner des clubs de certaines compétitions sera puni de la même façon. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de jurisprudence puisqu'en réalité, personne n'a jamais essayé. En revanche, il y a une jurisprudence de 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne sur des patineurs. Il y a des patineurs qui étaient sortis de leur compétition officielle pour aller faire une compétition autonome et privée. Ils ont été sanctionnés par l'Union européenne du patinage, sont allés devant la Cour européenne et ils ont gagné parce qu'on a dit qu'ils avaient la liberté de s'inscrire dans la compétition de ce qu'ils voulaient. Donc, la jurisprudence considérait plutôt qu'il n'y aurait pas de sanctions contre les clubs en question et contre les joueurs. Mais en revanche, le règlement de l'UEFA, lui, considère qu'il y en aurait. Donc, je pense qu'en fait, ça donnerait lieu à un contentieux massif. Et surtout, vu que les enjeux sont importants, moi, je pense que les clubs iraient jusqu'au contentieux. Ou alors, ils diraient, on arrête le contentieux et on négocie pour que votre sanction, elle soit beaucoup moins importante.
Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Chaudel? Les trois derniers jusqu'au boutiste, on va les appeler, hein, Real, Barça, Juventus, est-ce qu'ils sont capables d'aller au clash avec l'UEFA? Et comme vous le disiez tous les deux, quand on s'appelle Griezmann, Ronaldo ou, Courtois, on a envie de jouer l'Euro, on a envie de jouer la Coupe du Monde. Et donc, dans ces cas-là, on dit, je termine, je demande mon transfert.
Il n'y a aucun doute sur le fait que les joueurs aient envie de jouer ces grandes compétitions-là. Maintenant, soit on arrive à trouver un terrain d'entente, soit c'est la politique de la terre brûlée, parce que l'UEFA qui se priverait de tels joueurs pour l'Euro, la FIFA qui se priverait de tels joueurs pour la Coupe du Monde, se ferait du mal à elle-même également, puisqu'elle dévaluerait ses propres produits, ses propres compétitions. Donc, finalement, on est dans... un bras de fer où tout le monde, y compris les fans, les amoureux du football, risquent de perdre. Je reviens juste sur cette notion d'amende à 150 millions d'euros. La question, j'ai pas lu Der Spiegel, je suis désolé, mais je pense que c'est plutôt l'amende, enfin,
Non, ce serait le dédommagement qui serait dû en cas de retrait du projet.
C'est une indemnisation.
C'est pas une amende, hein, c'est une indemnisation.
Par rapport à JP Morgan, j'imagine.
Oui.
Par rapport à JP Morgan, j'imagine. Et là, auquel cas, je crains que JP Morgan, la fondation JP Morgan et sa grande volonté humaniste et solidaire.
C'est du second degré, hein, on décrypte.
Et l'oreille un peu sourde. Et donc, effectivement. À ce niveau-là, la discussion n'est pas close, je pense.
Jonas Haddad.
L'entrée dans la danse d'une banque d'affaires comme JP Morgan, ça montre bien que le projet était très financiarisé.
Ah oui.
Ça montre bien aussi le fait que la Juve, le Real et Barça restent. C'est que leur capacité de ce qu'on appelle de fonds propres est totalement exsangue aujourd'hui.
Et alors, je donne la dette, si vous voulez, des trois clubs. Le Barça, 1,173 milliard d'euros. Le Real, 901 millions d'euros et 458 millions d'euros pour la Juve à fin 2020.
Mais justement, c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les fans de foot, jusqu'à il y a peu, considéraient que le Real, le Barça, la Juve même étaient parmi les meilleurs clubs du monde. Et on voit bien qu'il y a une décorrélation totale aujourd'hui entre la valeur sportive parfois et la valeur financière, parce que la valeur sportive n'implique pas forcément la valeur financière. Et quand vous êtes sur un train de vie ou alors un endettement qui est très important et que derrière vous n'avez pas des supports qui sont illimités, on peut le dire entre nous.
Le Qatar, c'est illimité.
Le Qatar, c'est un État.
Les Émirats pour le City, c'est illimité.
Faut que les gens comprennent qu'en fait, en matière financière, ce qui est important, c'est la signature de la personne qui est derrière. Donc quand on sait que la personne derrière a des milliards en stock, il n'y a aucune problématique, les banques prêtent. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, la signature des socios prises chacun séparément, ça ne pèse pas grand-chose vis-à-vis d'une JP Morgan qui a des objectifs. Mais alors, là où en revanche, je suis beaucoup plus étonné, c'est comment une banque d'affaires comme JP Morgan, qui est censée être une des meilleures banques d'affaires du monde, n'a pas anticipé la défaillance de ce projet.
C'est-à-dire qu'elle l'a anticipé, puisqu'en fait, elle a des pénalités de sortie. Et
oui,
donc, elle, aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant.
Enfin, honnêtement, en termes d'image, ils passent vraiment pour des ozos, hein. Parce que là...
S'il récupère 12 fois ou 9 fois 150 millions d'euros en une semaine, c'est des ozos malins. Hein.
Non, mais on imagine bien qu'ils ne les récupéreront pas. Les clubs ne peuvent pas se le permettre aujourd'hui, sauf à dire derrière que ce sont des cyniques absolus et de dire qu'ils ont fait tout ça pour récupérer des indemnisations. Je pense que leur objectif, c'était de faire une Super League sponsorisée, enfin pas sponsorisée, mais en tout cas backée par JP Morgan, qu'ils ont échoué et que voilà, ils doivent en payer les pots cassés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les indemnisations qu'ils attendaient.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On vous retrouve tous les samedis matins aux alentours de 7h52. Jonas Haddad, avocat de joueurs professionnels au cabinet Hashtag Avocat, vice-président de la Fondation Cocorte, qui va très prochainement publier un rapport sur l'économie du football. Ça intéressera Vincent Chaudel, ça intéressera Sud Radio, soit dit en passant.
Ouais, certain.
Et vous voulez le verdict, ça a bougé. On était à 59,5% qui disiez sur Twitter que pour vous la Super League allait revenir sous une autre forme, et bien maintenant vous êtes 60,6%. Dans quelques instants, Osez Investir, Thomas Binet qui reçoit Marc Bertrand dans l'hebdo, il est directeur général d'Amundi Immobilier, et dans le club, le français le plus titré de l'histoire du sport, Patrice Martin, skieur nautique mythique, qui est président de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard. Restez bien avec nous sur Sud Radio.